Bonjour, ici François Nardou de Montcuq. Je vous parle depuis le studio du Boulevard et le sujet d'aujourd'hui va nous intéresser à un thème qui peut paraître classique, voire même rebattu dans la culture du Quercy. Je vais vous parler des grottes, des antres, des cavernes dans l'imaginaire du Quercy et surtout du Quercy blanc. Je ne vais pas m'aventurer à parler de choses pour des régions que je connais moins. Alors, les grottes dans l'imaginaire du Quercy blanc sont particulièrement marquées par le rôle qu'ont joué les spéléologues du 19e et du 20e siècle dans leurs découvertes et les préhistoriens dans leur interprétation et exploitation. Alors, parmi ceux-ci, il y a un fameux préhistorien du Quercy qui était l'abbé et futur chanoine Lémouzy, qui avait fait ses premières mains, je crois, sur la grotte de Cougnac, et qui ensuite a été nommé curé de Cabreret. Et l'abbé Lémouzy, le chanoine Lémouzy, dans les années 1920, à peu près l'entre-deux-guerres, peut-être un peu plus tôt, se promenait sur sa paroisse, dans les chemins, et il voyait plusieurs fois des bergers conduisant des troupeaux de moutons depuis le Causse vers le fond de la vallée, pour les faire pâturer dans les prairies de Ribeiros, le fond des vallées inondables. Et ce qui l'a intrigué, il voyait ces petits bergers se regrouper devant une grotte et se mettre en prière, à genoux, faire des signes de croix et réciter des prières. Alors il s'est approché, il leur a dit « Mais qu'est-ce qui se passe les enfants? Pourquoi est-ce que vous priez devant ces grottes ?» Et les enfants lui ont dit « Mais monsieur l'abbé, monsieur le curé, nos ancêtres, nos anciens nous ont toujours dit que lorsqu'on descendait dans la vallée depuis le Causse, il fallait s'arrêter devant cette grotte et réciter des prières. » Le problème, c'est que l'abbé Lémouzy n'a pas recueilli le texte des prières. Ça aurait été intéressant. Et là-dessus, s'intéressant fortement à la préhistoire, il a eu l'idée de faire une expédition de découverte. Il est dans cette grotte avec l'assistance de paroissiens, d'enfants qui lui portaient des cordes, pioches et tout ce qu'il fallait. Et il a découvert le fameux abri Murat, avec un T à la fin. Et ensuite, il a découvert Pêche-Merle. Alors ça vous montre un peu, il y a quelque chose qui caractérise le 19e et le 20e siècle, c'est la découverte des grottes connues dans tout le bassin aquitain, en Périgord, au pied des Pyrénées, les Aizy, Nio, Lascaux, Altamira en Espagne, qui était la première grande grotte découverte. En Quercy, Pêche-Merle, évidemment, mais aussi il y en a d'autres que je ne connais pas tout, le Cougnac, les Fieux et tout ce qui s'ensuit. Et donc, cette recherche préhistorique dans le Quercy a été illustrée par des figures marquantes qui étaient très souvent des ecclésiastiques. Le plus connu, c'est l'abbé Breuil, qu'on avait surnommé le pape de la préhistoire, mais aussi le chanoine, bon, l'abbé Lémouzy, je viens de vous le dire, son disciple, l'abbé Glory, quasi, il faut prononcer non pas Glory, mais Glory à l'occitane. Et c'est alors que s'est formée dans l'esprit des populations une mythologie, disons un imaginaire qui tend à devenir un légendaire tournant autour des grottes considérées comme des hauts lieux des origines, différentes de ce qu'étaient les souterrains représentant la face sombre et inquiétante du même symbole que celui représenté par les grottes. Alors en Quercy, évidemment, ça se trouvait particulièrement approprié, puisque bon, ce qui caractérise le Quercy, c'est quoi ? Il y a d'abord un cadre géographique et historique, un fait physique, naturel, géographique, inscrit dans les paysages quercinois, carcinol faudrait-il dire, avec les grands réseaux de grottes dans les hauts plateaux calcaires, les hauts causses du Haut-Quercy, au nord de la vallée du Lot, dans les calcaires jurassiques, avec ces grands réseaux de grottes à vaste dimension bien développés, alors que le Quercy blanc, le Quercy au sud de la vallée du Lot, même plutôt disons le Quercy du versant garonnais, lorsque les causses s'abaissent vers la Garonne, et non pas du bassin du Lot au nord de la ligne de séparation des eaux. Alors, ce qui caractérise le Quercy blanc, c'est précisément une multitude de petites grottes, sans trop grand développement, rarement ornées, je n'en connais pas beaucoup, quelquefois marquées par la présence d'ours ou d'animaux divers, rarement par l'homme, mais des grottes qui ont souvent été le sujet, l'objet et la source de légendes. Alors, ce sont des grottes qui, je vous l'ai dit, n'ont pas un grand intérêt au point de vue de la préhistoire, mais elles l'ont beaucoup au point de vue de l'histoire mythologique, de l'histoire des mythes, de l'histoire des systèmes de pensée, on pourrait dire de l'histoire des religions, au fond de l'histoire sacrée et de la géographie mythique. plutôt de l'histoire mythique et de la géographie sacrée. Alors, les grottes en Quercy sont d'abord à replacer dans le cadre langagier. Si la grotte est d'abord et surtout un phénomène naturel, c'est aussi un phénomène culturel, c'est un fait humain, culturel, un fait qui entre dans les usages, les traditions, les rites et les mythes, plus qu'encore un phénomène physique et géographique. On peut dire qu'avec les grottes, c'est un pays qui, dans et par ses mythes, donc dans et par sa parole, par ses paroles, par ses mots, exprime son âme profonde. Et ici, les mythes sont inscrits dans la roche des grottes, des falaises et même des chapiteaux sculptés de nos églises. On est donc en plein dans l'histoire culturelle du Quercy, et ça se traduit par l'emploi de termes particuliers, termes de l'occitan local ou de l'occitan général pour désigner les grottes. Alors il y a plusieurs mots qui vont se retrouver dans les noms de lieux et les noms de famille, les noms désignant la grotte d'origine latine, comme cabo, la cave si vous voulez, cauno, la cône dans le Tarn, l'espelugo, qui vient du latin spelunca, et vous avez encore plus anciens des noms qui sont antérieurs aux Gaulois, que l'on appelle pré-indo-européens, comme les mots de croso ou de cross, la croso ou le cross, de balmo ou baumo, qui va donner par exemple le nom de famille Balme, et la Santo Baumo en Provence, la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, dans sa forêt de Hêtre. Alors on a donc plusieurs mots, plusieurs noms, qui vont par exemple se retrouver dans la toponymie locale, à Montcuq et dans tout son ancien pays. Caveroc, en occitan Caborocco, écrit Cavaroca, la roche creuse. Un nom plus intéressant encore, qui est un nom de famille et qui peut prêter à confusion, c'est le nom de, en français, Comon, en occitan Caumun. Et Caumun, c'est le Mons Caus, ou le Caus Mons. C'est le mont creux. C'est le mont qui cache une grotte, qui recèle une grotte, beaucoup plus à mon avis que le Calidus Mons, le mont chaud. À mon avis, le nom de lieu et de famille Comon, Caumun, signifie la présence d'une grotte profonde dans un mont, un pêche, une colline. Et on peut dire une chose, c'est que dans l'imaginaire général, et pas simplement carcinol, au sujet des grottes, celles-ci apparaissent comme des lieux des origines, mais aussi des fins dernières. C'est ainsi, par exemple, que dans la mythologie médiévale, on avait remarqué que Jésus naissait dans une grotte et qu'il était enseveli dans une grotte, le tombeau du Christ à Jérusalem étant une grotte. Sans compter bon, ce qui a été développé récemment sur de vieilles légendes qui voudraient qu'en fait le corps du Christ ait été déposé dans une crypte, et c'est le mot grec « crypta » est à l'origine de la forme romane « grotta » qui a donné le français « grotte ». Et le corps du Christ aurait été enseveli en fait dans une crypte sous le Saint des Saints, à l'aplomb même du Saint des Saints, de ce qui est de nos jours le Dôme du Rocher, d'où il reviendrait pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. On retrouve cela en islam avec les débuts de la révélation, lorsque la première descente de la révélation faite à Mahomet a eu lieu dans une grotte sur le mont Hira, la grotte dans laquelle il se réfugiait pour méditer, et c'est là qu'il aurait eu sa première révélation et la vision de l'archange Gabriel qui lui aurait révélé les premières sourates. Ikra, li, ou plutôt clame au nom de ton Seigneur qui a créé, etc. Et c'est là qu'il se réfugiera lorsque poursuivi par des Mécois, et il sera protégé par un miracle. Ses poursuivants, à l'entrée de la grotte, verront une araignée tissant sa toile et une tourterelle couvant ses œufs. Ils en concluront qu'il n'y a personne dans la grotte. On retrouve le même phénomène, le même motif de la grotte au Japon, avec la grotte d'Amaterasu, la déesse soleil, Amaterasu no Omikami, qui sort d'une grotte et rend la lumière et la chaleur et le soleil à l'univers plongé dans l'obscurité. Elle s'était réfugiée dans cette grotte parce qu'elle avait été offensée par son frère. Et on le retrouve dans les Andes, au Pérou. Les Incas, enfants du soleil, fils du soleil, naissent, sortent d'une grotte. On le retrouve à Rome, avec la grotte de la Louve, le Lupercale, où Romulus et Rémus ont été allaités par la Louve. On le retrouve en Israël, avec la grotte-tombe de Macpella à Hébron, le lieu d'ensevelissement des ancêtres fondateurs. On le retrouve dans l'imaginaire judéo-chrétien avec Adam, inhumé dans une grotte, sous le lieu de la crucifixion de Jésus. On le retrouve à Éphèse, en Asie mineure, avec le mythe des sept dormants dans la caverne. en Crète, en Grèce ancienne, avec le mythe de la caverne de chez Platon, en Crète avec les grottes qui ont été les lieux où Zeus aurait été protégé par les courettes écorribantes et allaité par la chèvre amaltée, et c'est là aussi que se trouverait son tombeau. Grotte du mont Ida où le roi Minos de Crète venait consulter Zeus tous les 9 ans. Et on le retrouve surtout, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est en Asie mineure, l'antre de l'oracle de Trophonios, dont la description correspond absolument à ce que nous savons avoir été au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, en Irlande, les rites tournant autour de ce qu'on appelle le purgatoire de Saint-Patrice. Le purgatoire de Saint-Patrice se trouve dans un monastère dont l'abbé a les pouvoirs épiscopaux. Je crois que c'est dans la province centrale, le Meath, la province d'Armagh, dont l'archevêque d'Armagh est en primat d'Irlande, donc pas loin de l'ancienne Tara, la capitale des rois d'Irlande, des hauts rois d'Irlande. Et il y a là un lac, au milieu du lac une île, et dans cette île un monastère. Et dans ce monastère, il y a une crypte dans laquelle, après des rites bien particuliers, peuvent descendre les candidats volontaires pour être, pour vivre sur cette terre et de leur vivant, les épreuves purificatrices qui leur permettront ensuite d'entrer directement au paradis. Et on retrouve cela dans le mythe de Trophonios en Asie mineure, où on disait qu'évidemment, les initiés, avaient, après avoir accédé à la vérité profonde de leur être, en conservaient la marque dans leur comportement pour le restant de leur jour. Et ce qui était assez curieux, c'est que Trophonios, en Asie mineure, était un roi et architecte. Et oui, il y a deux motifs qui apparaissent dans ces mythes. C'est le motif du roi architecte, constructeur du temple, et celui du milieu, du centre du monde. On retrouverait donc là, si vous voulez, des thèmes forts de la pensée mythologique et qui pourraient avoir quelques échos dans le pays de Montcuq avec ce que je vous avais peut-être dit auparavant. Dans l'église Saint-Barthélemy de Lozère, un tableautin qui montre Saint-Joseph en constructeur du temple de Jérusalem. Et à Montcuq, le fait que les habitants de Couvignac et de Pechméja, ça veut dire le monde du milieu, le monde du centre, étaient des extracteurs et des tailleurs de pierre et de bois, chargés d'entretenir gratuitement à leurs frais la chapelle devenue au XIXe siècle de Saint-Joseph dans l'église de Saint-Hilaire. On aurait donc là peut-être une espèce de concaténation, de rassemblement de mythes divers, de motifs divers dans la mythologie locale. En tout cas, ce qui apparaît, c'est que la grotte, dans les mythes et les légendes anciennes, est un lieu des origines, c'est un lieu où naît la culture, où naît la civilisation, où naît le pays, où naît le monde dans lequel on vit. Et c'est donc un milieu qui, par son aspect, son organisation, son orientation, fait entrer les habitants en rapport avec le monde de l'au-delà, le monde d'en bas et ou le monde d'en haut. Nous allons nous arrêter pour un petit moment de musique avant de reprendre sur la parole des anciens. Nous sommes toujours sur Antenne Doc et je vais, dans le cadre de cette émission sur les grottes dans l'imaginaire du Quercy, traiter maintenant de ce qu'a été la parole des anciens, les mythes et légendes. Alors, il y a un dit local qui imprègne beaucoup la vision légendaire qu'ont les gens de Montcuq de leur pays. C'est un dit local qui veut que toutes les grottes du pays, aussi petites soient-elles, soient reliées à la tour ou à la tour donjon du XIIe siècle par des souterrains. C'est assez curieux parce que les grottes étant beaucoup plus anciennes que la tour elle-même, la tour n'est que du XIIe, il y aurait là, si vous voulez, une espèce d'anachronisme que a retrouvé Jean Lartigot dans ses recherches sur le Quercy médiéval et même des premiers temps de ce qu'on appelle l'ère moderne, c'est-à-dire 15e-16e, où il s'était aperçu que des sites sans aucun lien historique entre eux passaient dans la population locale pour relier par des souterrains. À Montcuq, c'est la même chose. La tour qui date de 1150 serait reliée par des souterrains avec toutes les grottes du pays. Alors que la plupart de ces grottes sont de faible développement et ne révèlent aucune entrée de souterrain. Tout le bourg de Montcuq serait dans cette idée-là structuré, en quelque sorte, par un réseau de souterrains reliant toutes les vieilles maisons, des vieilles familles, des nobles et chevaliers fidèles des comtes de Toulouse au Moyen-Âge, reliant ces maisons, ces oustals, à la tour de Montcuq, y compris non seulement dans l'enceinte des remparts médiévaux, mais même en dehors. La moindre petite grotte, alors celle du Garric, bien connue des habitants du pays, celle du Roc de Faïde, de la Brugade. Il n'y a aucune légende, il n'y a rien. La roque du Roc de Faïde a quelques traits de légende, mais c'est tout à fait récent et ça n'a rien à voir avec la grotte elle-même. Elles n'ont aucun intérêt, à aucun point de vue, mais elles seraient soi-disant reliées avec la tour de Montcuq. Alors tout le pays en serait donc ainsi structuré. Alors ce serait par exemple à Prégnac, la grotte où se trouve la source de bonnes armes, la Ibunos Armos, c'est-à-dire les trépassés, les bonnes âmes. Ce serait à Saint-Martial, alors là c'est encore plus intéressant, encore plus curieux, parce qu'à Saint-Martial, l'église romane, refaite, restaurée au début du XVIIIe siècle, indiquerait par son axe absidal non seulement le point où se lève le soleil le matin des fêtes de Saint-Martial, 30 juin et 3 juillet, mais en fond de vallée, la source donneuse de pluie dont j'avais déjà parlé, sur l'Écosse en face, une grotte, beaucoup plus ancienne que l'église évidemment. Alors, grotte très curieuse parce que son entrée, son ouverture, serait dans l'axe exact de l'abside de l'église. C'est-à-dire, au fond, comme si l'ouverture de la grotte avait déjà indiqué au constructeur de l'église à quel endroit implanter celle-ci. Et au-dessus de la grotte, sur le corse, se trouverait un menhir qui, lui aussi, indiquerait donc l'axe du lever du soleil pour les fêtes de Saint-Martial, mais également serait en rapport avec les menhirs de Cambeyrac, de la fameuse vallée d'Andorre. On retrouve également la même chose à propos d'autres sites pré-chrétiens, païens, du pays de Quercy-Blanc. On le retrouve par exemple à Lozerte, avec la source de Saint-Mathurin, qui se trouve dans une crypte au milieu du cimetière. Et je vous dis une crypte, d'après le grec crypta, c'est une grotte artificielle. Alors il faut savoir que toutes ces sources guérisseuses sont souvent pensées, vues comme des résurgences de la source principale, qui jaillit auprès du lieu de culte principal du saint en question, c'est-à-dire que par exemple à Rouillac, la source de Saint-Julien de Brioude serait une résurgence de la source de Saint-Julien dans la forêt, dans la chênaie blanche de Brioude, dans laquelle le saint aurait été décapité. Donc la source de Saint-Mathurin à Lozerte serait une résurgence du fameux lac animé de mouvements maritimes de l'Archant entre Nemours et Malesherbes, dans la région entre Orléans et Paris. Dans la pensée locale, c'est comme s'il y avait des liens curieux, mystérieux, entre différents hauts lieux sacrés, que par ailleurs, à première vue, rien ne relie. Il y aurait une véritable géographie sacrée de l'ancienne Gaule, romaine, gauloise, médiévale, chrétienne, pré-chrétienne, une espèce de géographie sacrée qui serait inscrite dans le paysage par des grottes auxquelles seraient associées des sources. Celle à laquelle on pense évidemment, c'est celle de Saint-Jean-le-Froid, qui est l'exemple parfait d'une grotte initiatique et dans laquelle coule une source. Saint-Jean-le-Froid, dont la voûte de la grotte est percée naturellement, ce n'est pas l'œuvre de l'homme, d'un trou sommital, on appelle ça un oculus. Un oculus sommital et zénital, qui indique donc le zénith, donc en rapport avec le mythe de fondation de Saint-Jean-le-Froid, qui est en rapport avec le solstice d'été. Elle serait un exemple achevé de caverne initiatique qui met en rapport les trois mondes, le monde d'en bas, auquel on communiquerait par la source, le monde du milieu, celui des hommes, et le monde d'en haut, le monde céleste et solaire. Et cela ne serait pas sans évoquer, du reste, certaines traditions de l'Orient, proches, moyens et extrêmes, qui veut que lors des rites d'accession au pouvoir, les rois sacrés, les rois thaumaturges, les rois charismatiques, soient soumis à des épreuves initiatiques dont ils triomphent, et c'est par leur triomphe au terme de ces épreuves qu'ils se révèlent qualifiés pour exercer la royauté thaumaturgique, qui est une royauté totale et absolue. Pourquoi ? Parce que lors de ces épreuves, les rois sont amenés à enfreindre des tabous, des interdits, et leur triomphe sur l'infraction de ces interdits, infraction dont ils ne subissent aucun dommage, les révèle comme étant des êtres libres, des êtres marqués d'une liberté absolue, ayant enfreint tous les interdits, ayant triomphé de ceci, ayant été victorieux dans les épreuves, victorieux des châtiments qui attendraient l'impétrant indigne de la royauté magico-religieuse, ils se qualifient donc comme étant des êtres d'exception. En chinois, le terme Wang, qui désigne le roi, ces trois traits horizontaux traversés par un trait vertical. C'est exactement l'étymologie de Wang en chinois m'a toujours fait penser à celle de Wanax, le roi mycénien, qui monte vers le ciel à travers le trou sommital d'une grotte. Il s'échappe, se libère des chaînes, des contraintes et des interdits. C'est donc, si vous voulez, là, il accède à une royauté totale, un pouvoir total sur le monde. Cette sacralité en fait un maître des forces de la nature. Il est donc tenu pour garant de l'ordre du monde et de toutes les abondances et félicités, mais évidemment avec un risque, si jamais des disettes, des phénomènes naturels désastreux se produisent, il est tenu pour responsable. Alors, ces traditions marquent de leurs traces et vestiges d'autres lieux, hauts lieux sacrés du Quercyblanc. Je voulais parler, et j'espère ne pas l'oublier, de la fameuse grotte de Roland, en face de Montcuq, à Antre de l'Ours, des origines mythiques, proches d'un dolmen. Or, il faut quand même remarquer une chose, c'est comme à Saint-Martial. Le dolmen de Roland est un dolmen de l'âge du bronze final, du second millénaire avant notre ère. La grotte de l'Ours est une grotte du paléolithique final, donc il y a à peu près, disons, presque 20 000 ans d'écart entre les deux. Et c'est ce qui caractérise un peu ces grottes à mythes, mystères, légendes et qui sont investies d'une certaine sacralité dans l'esprit de nos populations, c'est qu'on s'aperçoit par là que, outre l'anachronisme, elles semblent avoir conservé la longue mémoire d'une très ancienne sacralité. Et c'est ce qu'on trouve particulièrement à Montcuq, dans la grotte dite du Diable, dont je voudrais parler maintenant. Nous allons nous reposer pendant quelques minutes au son d'une musique aussi agréable que possible. Thank you. Nous allons donc continuer toujours cette conversation en traitant de deux grottes particulièrement marquantes dans le paysage et l'imaginaire des gens du pays de Montcuq. D'autres seront à voir si l'on peut à la fin de cette émission. La grotte de Roland et celle du Diable à Couvignac. Alors la grotte de Roland est bien connue de tous les Montcuquois. Elle a été longtemps l'objet de visites destinées aux touristes, assurées par Fernand Vignol, le découvreur de la grotte, puis par son fils Louis Vignol. Alors c'est très curieux parce qu'on a là un phénomène à la fois naturel et mythologique. Le phénomène naturel, il est dû à la nature des calcaires du Quercy Blanc, calcaires crétacés, qui permettent malgré tout, m'a dit Louis Vignol par un mail particulier, de développer de vastes réseaux karstiques, on appelle ça comme ça. Les réseaux souterrains, c'est le karst. Un vaste réseau karstique qui va depuis Bagat à Las Bouilles jusqu'à Roland. Mais pour les gens de Montcuq, on m'avait toujours raconté que Fernand Vignol, labourant ses terres dans la combelle de Roland, aurait vu sa charrue s'enfoncer dans le sol et aurait ainsi découvert la grotte. Or, c'est ce qu'on m'avait toujours raconté. Or, Louis Vignol m'a dit, mais pas du tout. Cette grotte était connue de toute la famille depuis longtemps, tous les ancêtres en savaient l'existence, et son père Fernand, passionné de préhistoire et d'archéologie, et qui lisait beaucoup d'ouvrages sur le sujet, qui était en rapport avec les grands préhistoriens français, son père avait dégagé l'entrée de la grotte et l'avait ainsi ouverte à la visite. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que cette grotte Roland, on le sait qu'elle a été fréquentée par des ours des cavernes, donc vers 20 000 avant notre ère, elle est chargée d'une mythologie qui, assez curieusement, serait celle du néolithique, de l'âge du bronze, voire du Moyen-Âge. C'est-à-dire que cette grotte qui est celle qu'ont connue les chasseurs-cueilleurs du paléolithique final, 20 000 avant notre ère, c'est Lascaux, est chargée d'une mythologie qui est celle de à peu près 5 000 avant notre ère, 5 000 presque jusqu'en plein Moyen-Âge, lorsque l'on labourait encore avec l'arère dont le soc était souvent fait d'une pierre taillée, d'une pierre aiguisée, recouverte d'une âme en métal, en fer. Alors on a là une espèce de carambolage de la mythologie avec les faits réels. Alors ce qui moi m'avait beaucoup intéressé, c'est que cette grotte de Roland, trouvée légendairement par un labour, dans une cumbelo, des terres blancos, de terres blanches, de terres marneuses, et non pas de terres rouges. C'est très curieux parce que le nom de Roland, Rotland, Roulland en occitan, ça vient du germanique Rotland, la terre rouge. Or, c'est vrai, il y a des parcelles de terre dans les combes de Roland qui sont d'une belle couleur rouge ferrugineuse qui révèle la fertilité du sol. Mais autour de la grotte, me disait Louis Vignol, les terres sont blanches, ce sont des marnes calcaires, ou des calcaires marneux, comme l'on voudra, particulièrement stériles. Et pour les gens de Montcuq, c'est donc en labourant que Fernand Vignol aurait découvert cette grotte. Alors là, moi, de suite, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est les travaux et les jours d'Hésiode, c'est les textes homériques, notamment plutôt l'Odyssée que l'Iliade, c'est l'hymne homérique à Déméter, c'est ce labour rituel, n'est-ce pas, par lequel un homme rend la terre féconde en la labourant trois fois dans trois sens opposés différents. Mythe hésiodique de Déméter, mère du blé, que l'on retrouve chez les Berbères du Maghreb, que l'on retrouve dans toute la Méditerranée ancienne, évoqué dans la Bible, évoqué dans le Coran, mais qui est aussi ce qui est évoqué par les sculptures particulièrement intéressantes et révélatrices de l'église Saint-Pierre-Olienne de Saint-Donès, à tout à côté de Roland, c'est pas très loin, c'est à peine 3 km, même pas. Sculptures qui sont celles pour ce qui est du chapiteau nord, quand on entre dans l'église par la porte est, on entre par l'ancien chœur. Le chapiteau nord qui, sur la face côté fidèle, enfin côté central, vous montre un labour rituel avec une scène de fécondation de la terre par le laboureur. On assiste là, à propos de la grotte Roland, à Montcuq, à une mythogénèse, une mythopoïèse, c'est-à-dire la fabrication d'un mythe, par les populations du XXe siècle, les gens que j'ai connus, les gens de l'âge de mes parents, par exemple. Donc à partir des années, puisque Fernand Vignol a découvert la grotte, enfin a ouvert la grotte en 1949, donc la mythologie est récente, une mythologie moderne formée sur un fait naturel. Ce labour qui aurait permis de découvrir la grotte de Roland, c'est celui que l'on trouve évoqué sur les pétroglyphes de la Vallée des Merveilles, dans le parc du Mercantour. On le retrouve évoqué en Scandinavie, on le retrouve évoqué dans les traditions de tout l'Occident et du monde méditerranéen et périméditerranéen. Alors, c'est aussi en rapport avec le dolmen de Roland, qui est tout à côté. On sait que les dolmens et les menhirs sont à rattacher dans la mythologie médiévale au personnage du fameux Gargan, dont Rabelais a exploité la figure sous le nom de Gargantua. Gargan, c'est un radical qui veut dire le très rocheux. Il y a un redoublement du radical gar, c'est le très rocheux. C'est un génie, un héros solaire, maître des menhirs et des dolmens, maître organisateur du paysage, et maître de la roche. C'est aussi un personnage dont le passage dans le paysage reproduit la course du soleil dans le ciel. Or, ce qui m'a beaucoup frappé à propos de ce paysage de Roland, entre la Tuco de Macagni, dite de la garde de Roland, et le château de Roland lui-même, c'est que, très curieusement, il y a deux choses. Il y a deux thèmes qui apparaissent. D'abord, le fait que ce soit l'ours qui marque les lieux. Or, on le sait, dans la mythologie ancienne de l'Europe, l'ours est un animal lié à la lune, c'est un animal lunaire, et lié au calendrier lunaire, qui n'apparaît pas pourtant dans la pensée mythologique légendaire locale. Mais aussi, ce qui m'a encore plus étonné, intrigué, c'est que au XVIIe siècle, les châteaux de Roland, de Pleysse, de Fontauda, du Trépadou, de Mirabel, du Pêche de Belliqui appartenaient tous à la même famille noble, celle des Ali de Montcuq, dont les descendants seront présents au XIXe et XXe siècle, au Touron, dont je vous ai parlé déjà et dont vous connaissez l'aura mythologique, chamanique, particulièrement redoutable. Alors l'autre grotte qui marque beaucoup l'imaginaire local à Montcuq et qui en fait un lieu d'initiation, or les initiations, comme on dit en Afrique, l'initiation commence sur la natte d'accouchement, lors de l'enfantement, et elle s'achève dans la tombe. Alors, est-ce que nos grottes seraient donc des lieux matriciels, comme dit André Chouraki dans sa traduction étymologique du Coran et de la Bible? Le Rahman hébraïque, devenu un des titres de Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahmim, c'est le matriciel et le matricien, comme il dit lui-même. C'est un fait qui intéresse Rouillac et Couvignac, et qui m'a toujours intrigué. À Rouillac, sur le mur absidal, la fresque de la crucifixion nous montre Marie, la Sainte Vierge, sous la branche nord de la croix. Elle montre son giron, le lieu de l'enfantement de Jésus, de sa main droite. Et elle a sa main gauche sur la gorge. C'est un geste rituel de reconnaissance entre initiés. Le giron, c'est le lieu des origines. C'est aussi, dans beaucoup de mythes, la caverne. C'est donc le lieu des origines et des initiations. Or, à Couvignac, nous avons une grotte. Je connaissais l'endroit, mais je ne connaissais pas du tout l'aura mythologique qui l'environne. C'est la grotte dite du diable, à Couvignac. Alors, Couvignac, c'est un nom intéressant. Pourquoi ? Parce que ça repose comme Couvinens à côté du Touron et de la fameuse gariote à structure hélicoïdale ascendante qui se termine par un oculus sommital. C'est le même nom que Couvinens. Vous avez la racine gauloise Couvinos, qui est un des épithètes désignant, attribut du nom d'un dieu gaulois qui apparaît sous différents noms, Esus, Mars, par exemple. Esus, ça veut dire le bon mais sous-entendu le mauvais, qui apparaît dans son char de triomphe tiré par des mules noires. Et Couvinos va donner Couvignacum, Couvignac. Et nous avons là Couvignac, à l'ouest, par rapport au mas de Lonard, ou Launart, qui veut dire tout simplement Léonard. Nous avons là un site de grotte, mais j'oubliais de vous dire qu'il est en opposition symétrique par rapport au mas de Lonard, avec une grotte artificielle, une crypte, creusée à l'est de Lonard, au milieu d'une colonie de romarins, et cette crypte m'évoque une loge initiatique. Il y a là une porte d'accès tournée vers le sud, on est sur le versant plein sud. Donc l'entrée d'une espèce de loge avec une banquette de pierre taillée au bas des murs, sans oculus sommital, et j'ai toujours cru y voir quelque chose d'assez étrange. Mais à l'ouest du mas de Launart, donc de Léonard, le mas de Léonard se trouve en dessous de la fameuse Albugo del Muno, mais l'abri du parfait cathare de Montcuq. Quand vous allez vers l'ouest, vers Pechmeja, le pêche du milieu du monde, le pêche central, vous avez un paysage de chaos rocheux avec des falaises. Ce sont d'anciennes carrières de pierre, tout simplement. Le site est dangereux, car il y a des risques d'éclatement de la roche par alternance entre sécheresse et humidité, entre froid et chaleur, et je déconseillerais à des non-crapahuteurs pas très sportifs et même à quiconque d'y accéder. Il y a des risques d'éboulement et les blocs rocheux détachés de la falaise sont énormes. Le site est très agréable, il est ombragé de grands arbres. L'été, il est tout bruissant de cigales. Il est très ombreux, la roche est recouverte de mousse. Et vous avez là une falaise centrale, percée de trous de boulins, reste d'un échafaudage qui permettait d'accéder à une grotte refuge en haut de la falaise, à laquelle on n'accède pas facilement, il faudrait descendre par le rebord de Cosse, mais c'est assez dangereux. Et de part et d'autre de la falaise, au niveau du sol, vous avez deux grottes latérales. Alors, le site est donc orienté sud-nord, exactement du reste comme l'église Saint-Privat de Montcuq. Pour les gens de Montcuq, la grotte du Diable est nécessairement reliée à la tour de Montcuq par un souterrain. On peut y accéder par un sentier raide entre la falaise et une aiguille rocheuse séparée de celle-ci, mais c'est très dangereux. Il faut sauter sur l'aiguille rocheuse depuis le rebord du Cosse. Je le faisais étant adolescent, je ne referai plus ça maintenant. Et on y accède par un chemin de lapin, c'est très montueux, c'est très difficile d'accès. Et les deux grottes latérales sont assez impressionnantes, elles sont tout à fait naturelles, l'ouverture est triangulaire. Cette grotte du Diable donc, est surmontée d'une longue barre rocheuse, qui porte en occitan le nom de Baano. Or, il faut savoir que Baano, la longue barre rocheuse, a pu suggérer la confusion avec Loubanut. Loubanut, c'est le cornu, c'est le Diable, mais c'est aussi le rocheux. Ça ne s'expliquerait que par confusion dans l'esprit des gens entre l'occitan Baano et Loubanut. Ce serait donc une légende fabriquée à l'époque où l'occitan était langue courante dans nos régions, c'est-à-dire jusque vers 1930, ne faites pas d'illusions. Les lois de Jules Ferry dans le pays n'ont eu vraiment d'effet que 50 ans après leur promulgation. Alors j'avais pensé d'abord que le Diable à Couvignac, en fait, recouvrait la personnalité, la figure de l'ancien Jesus Mars Couvinos, que l'on retrouverait donc dans le nom de Couvinens et que l'on retrouverait dans ses manifestations au Touron, où il apparaît sous forme d'un cavalier sombre. Mais bon, la chose n'est pas une nécessité absolue. Alors, il y a d'autres grottes dans le pays dont j'ai oublié de parler et qu'il faut quand même que je traite. C'est toutes celles qui sont, par exemple, en lien avec ce que nous dit l'abbé Cubain dans ses Contes de la Vieille France, Contes de la Vieille France, qui sont des récits de faits réels, dont ce prêtre des années d'entre-deux-guerres fut témoin dans les paroisses du sud du Lot dont il fut curé. Alors, notamment à Trébaïs, l'ancienne Trisbaagis, le pays des trois hêtres, le hêtre étant un arbre sacré oraculaire. On le connaît dans le nom de même de Bagat. Bagat, c'est Bagos, Bagatum, le pays des hêtres. Prégnac, le bois sacré interdit. Alors l'abbé nous raconte qu'à Trébaïs, qui passe pour être un pays de sorciers, quand on est à Trébaïs, on est naturellement sorcier, il nous raconte qu'il y avait une grotte dans laquelle vivait une sorcière, une breix, une masco. Sorciero, c'est du mauvais occitan, c'est du français occitanisé. Et cette sorcière s'appelait la Caumuno, féminin de Caumun, comon. Or, Caumun, c'est en bon occitan, caus, enfin en latin, caus mons, cavus mons, si vous voulez, le mont creux. Et cette Caumuno, qui avait des animaux totémiques, des animaux, elle était assistée d'animaux totémiques, par aide, un hibou et un crapaud. Or, le crapaud, c'est l'équivalent dans la mythologie européenne de la tortue, la fameuse tortue sculptée dans le cœur de Saint-Aignan de Rouzé. On retrouve également cette mythologie de la grotte à Le Breil. Le Breil qui est marqué par des grottes en falaise. Au XVe siècle, c'est l'Artigot qui nous raconte dans sa thèse sur le Quercy après la guerre de Cent Ans, le village de Le Breil avait été abandonné. Il restait l'église, mais les gens s'étaient réfugiés dans les grottes des falaises où ils vivaient. Et grottes qui avaient été des nécropoles, des tombes de l'âge du bronze, du néolithique, ont même été réutilisées comme tombes au Moyen-Âge. Et parmi les habitants de Le Breil au XVe siècle, il y avait un Comon, un Caumun. Serait-il l'ancêtre de la sorcière de Trébaïs? Je n'en sais rien. On les retrouve au château de Marmont ou Malmont. Au XVIe siècle, un Guilien Caumun, Guillaume Comon, meunier, épouse l'héritière du château de Malmont, c'est-à-dire du Mauvais Mont, à côté du Touron et de la Gariotte à structure hélicoïdale. Et les descendants vont prendre le nom de deux Comon, de Marmont ou de Malmont. Ils ont été propriétaires de la belle maison à côté de l'église Saint-Privat, dans le jardin de laquelle se trouve un puits qui permet, par un souterrain, d'accéder à la tour. Entre Montcuq et Esqueirac, vous avez une barre rocheuse qui sépare les deux communes de Montcuq et de Las Cabanes, dans laquelle se trouvaient des petites grottes, on appelle ça des crosses ou des crosos, où gîtaient les habitants d'Écosse. Ils passaient pour des hommes des bois, des hommes sauvages. Ils vivaient dans les zones désertes, entre les territoires cultivés, dépendant à l'ouest de Montcuq, à l'est d'Esqueirac. C'était donc, en quelque sorte, cette barre rocheuse était une espèce de no man's land séparant les deux paroisses et les deux communes. À Rouillac, même chose, avec les grottes en falaise du roc de Leigo. Entre le château de la Tour et le mas et oustal de la Mascairato. La Mascairato, c'est celle dont le visage est tout mâchuré de noir, par la suie du fond d'une marmite, ce que l'on retrouve dans les rites de carnaval, d'expulsion de l'hiver, par la chasse à l'ours dans les Pyrénées. On retrouve ces grottes falaises dans le sud du Lot, bon, au Boulevé, évidemment, les grottes de la Roque, dans la vallée de Concos, dans la vallée du Verse. On a retrouvé ainsi des grottes refuges dans la falaise, qui ont servi quelquefois de grenier à céréales et à fruits secs par les premiers agriculteurs du Quercy au néolithique à l'âge du bronze. On croyait longtemps que ces grottes avaient été occupées lors des périodes de troubles et de difficultés politiques, de périodes d'insécurité. En fait, on s'est aperçu par des recherches récentes que ces grottes du Quercy et de tous les pays calcaires, karstiques du sud de la France et de la périphérie du monde méditerranéen avaient été au contraire occupés lors des périodes de paix, de prospérité, d'expansion économique et de surpopulation relative. On ne savait pas où se loger, et plutôt que de stériliser la terre agricole par des constructions en dur, on préférait se loger dans les grottes, qui ont longtemps, jusqu'aux années 1950 dans certains cas, servi d'étables à bétail et de granges pour entreposer l'outillage agricole. C'est donc l'inverse de ce que l'on s'imaginait dans les légendes locales. On s'aperçoit donc là que, par le légendaire local qui tourne autour de faits naturels réels et de faits culturels, le Quercy, appelant ses grottes, il les appelle Espelugos, Caunos, Crosos, comme dans tous les pays de nos régions modelées par les roches calcaires, le Quercy possède des lieux, des sites propices aux légendes, et il s'avère qu'en pays de Montcuq se rassemblent les différents types de ces légendes, ou du moins leurs motifs principaux. Ce qui pourrait, bon, évidemment, à parler d'autres thèmes de la mythologie locale en rapport avec le monde du sauvage, le sylvestre et le cornu, homme sauvage ou ancien dieu des forêts des origines, le diable, probablement, de la grotte du diable à Couvignac. C'est là donc ce que je pensais vous dire aujourd'hui. J'ai beaucoup élagué, j'ai beaucoup allégé. Nous nous reverrons donc dans 15 jours, et d'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir.
Toutes les saisons, moi j'aime l'automne, quand pourpre est l'horizon et que la foudre tonne. Quand il pleut en plein jour des cordes de guitare et que des troubadours s'en viennent peupler nos trottoirs. Quand le vent nous rapporte des nouvelles du ciel et que les feuilles mortes se découvrent des ailes. Quand les chapeaux s'envolent si loin des convenances que même les parapluies s'élancent et entrent dans la danse. Les maisons, moi j'aime la tienne, quelle que soit la raison, pourvu que j'y revienne. Quand je te vois, paysanne occitane, travailler cette terre dans ton bout de campagne. Quand je t'entends siffler à l'unisson avec les rouges-gorges, les merles et les pinsons, cette terre de rien venue d'un autre temps, l'air des matins d'automne porté par un vent d'automne.
Buffon qui est buffon, buffon qui est buffon.